Le masque sans la plume.
Cette semaine, je suis allé voir Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, son 90e film de l'année. En gros, c'est l'histoire de la Tabac Force, un groupe d'ersatz de Power Rangers, composé de Nicotine joué par Anaïs de Moustier, Mercure joué par Jean-Pascal Zadi, Ammoniac joué par Oulaya Mamra, Benzen joué par Gilles Lelouch, qui est un peu le chef de cette bande-là, et le personnage joué par Vincent Lacoste qui s'appelle Méthanol. Donc, vous l'aurez compris, puisque vous êtes tous des gros fumeurs dans ce podcast, ce sont les ingrédients, ou parmi les ingrédients, de la cigarette. Voilà pourquoi le film s'appelle Fumer fait tousser. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte en gros l'histoire de la Tabac Force, dont le chef, qui s'appelle Chef Didier, qui est un rat qui bave, vraiment très laid, dont la voix est interprétée par Alain Chabat, leur demande d'aller en retraite pour ressouder un peu les liens, etc. Parce que, soi-disant, petit à petit, la relation se dégrade. Donc pour que la Tabac Force soit très forte et réussisse à combattre ses ennemis, eh bien, il faut qu'ils se ressoudent un peu. Donc ils font ça, et à partir de là, en fait, tout le reste, ils veulent se raconter des histoires pour se faire peur. Et donc ils racontent des histoires dans lesquelles on voit d'autres personnages vivent des trucs qui n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir du tout avec le film de base. Et là, en fait, dans les mini-histoires, en gros, ils rajoutent encore plus de casting. Adèle Exarchopoulos, la magnifique, Grégoire Ludig et Doria Tillier, et Jérôme Niel, qui vivent une histoire, pour le coup, qui est la plus drôle, je trouve. Je ne dirais pas, mais Doria Tillier est assez fuckée là-dedans. Et Adèle aussi est très marrante, puisque, bah, effectivement, elle correspond un peu à son rôle... vulgaire un petit peu, de cagole du sud, qui filme tout ce qu'elle voit. Donc voilà, on a une autre mini-histoire avec Blanche Gardin et Raphaël Quenard, bien dégoûtant. En fait, le film est un peu gore, mais comme il est sous le ton de l'humour, en fait, ça va. T'as un mec qu'on voit se faire broyer, le rat il est vraiment dégueulasse, il y a la tortue qui explose en gerbe de sang immense. Bah comme d'habitude, Dupieux il brouille un peu les pistes, on sait d'ailleurs pas vraiment quand est-ce que ça se passe, parce que en même temps il y a des trucs Cry Power Rangers, c'est en mode futuriste un peu, c'est de la censée être plus ou moins de la SF, mais en fait pas du tout, ils sont dans un décor qui est complètement neutre. Et leurs costumes sont hyper cheapos, franchement c'est des déguisements de Noël, et ils les enlèvent jamais d'ailleurs, ils dorment avec. Et dans leur réalité à eux, un banc en titane, c'est un lit super confortable. Après j'ai jamais dormi sur un banc en titane en ayant un costume de Power Rangers, donc je sais pas ce que ça vaut, peut-être. On sait pas, mais peut-être que c'est confortable. En fait, je me dis que sans le casting, donc sans des acteurs qui sont quand même très bons et assez drôles tout seuls, je pense que le film, il est nul, quoi. Je sais pas si j'ai aimé, quoi. Fumer fait tousser, je lui mets 2 sur 5. Je ne peux pas lui mettre la moyenne, malheureusement. Bien qu'il y ait Adèle dedans, je lui mets 2 sur 5 parce que sauvé par son casting.
J'ai été voir Annie Colère au cinéma. C'est l'histoire de Annie, donc, hein, qui est une mère de famille. Et en fait, elle tombe enceinte, elle a déjà 2 gamins assez âgés, et elle en veut pas d'autres, en fait, parce qu'elle en veut pas d'autres. Elle veut avorter, et on la voit pousser à la porte d'une librairie et découvrir un groupe de nanas qui permettent de mettre en lien avec des médecins. Ça se passe au début des années 70, c'est vraiment un an avant que la loi Veil passe, parce que le sujet c'est vraiment pas les faiseuses d'anges et les avortements clandestins avec les aiguilles à tricoter et compagnie, c'est vraiment l'époque où ils ont commencé à trouver une nouvelle technique qui est moins douloureuse, que plus de gens peuvent pratiquer, et du coup il y a de plus en plus de groupes de nanas qui proposent des avortements avec des médecins, etc. Et en fait son avortement se passe assez bien, elle dit même que son avortement s'est mieux passé que son accouchement, et ça lui donne un peu envie de s'impliquer dans le militantisme, dans le féminisme, et du coup on suit un peu son parcours et la sororité, le soutien qu'elle a avec les autres nanas. Laure Calamy joue le premier rôle. C'est vrai que j'avais l'impression de toujours la voir un peu dans le même genre de rôle, avec le même genre de jeu, nana qui fait un peu naïve, mais en fait qui l'est pas tant, et qui est une femme forte, etc. Après c'est aussi sa voix qui fait ça en fait, et ça pour le coup c'est pas de sa faute. Pour ce sujet je me suis un peu dit, ah c'est Laure Calamy dans le premier rôle, bon elle est partout, ça c'est pas très grave, mais est-ce que ça va être crédible quoi. Et en fait elle joue vachement bien ce rôle de nana méga touchée, mais en même temps qui veut prendre son destin en main. L'autre rôle que j'ai trouvé bien c'est Zita Enro, et elle joue une infirmière qui donc est au MLAC, et qui pour le coup elle est méga 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 engagée. Son look est incroyable, elle fume clope sur clope, c'est-à-dire que vraiment elle ne s'arrête jamais, quand elle en écrase une elle en allume une autre. Ce rôle là de dire ben ce qu'on est en train de faire c'est chouette mais c'est absolument pas assez, et de gueuler sur les deux médecins qui viennent et de dire ah bah vous êtes malins mais en fait nous on veut plus de monde, on veut plus d'aide, et arrêtez de nous prendre un peu pour des nanas qui juste aidons, ce qu'on fait c'est important, et elle est super là-dedans. Et il y a une scène qui du coup est très drôle où elle oblige un des médecins à se mettre en slip blanc kangourou bien sûr évidemment à se mettre sur la table, les deux pieds dans les étriers, le cul quasiment au bout de la table, donc le mec est allongé, enfin la position qu'ils ont jamais quoi, et de lui dire bah vas-y parle-moi maintenant et tu vois ce que ça fait de parler à quelqu'un quand t'es dans cette position là, et surtout toi t'es encore en slip, nous on l'a plus. Et ça c'est assez rigolo parce qu'il est un peu tout pâteau et bon je sais pas s'il comprend grand chose, mais c'est assez rigolo comme scène. Du coup, qui dit années 70, dit décor kitsch à souhait. Elle a des sortes de tabliers de mamie qu'on a tous vus chez nos grands-mères pour cuisiner. Elle cuisine des choses assez boring, comme nos mamies peuvent cuisiner. Tous les habits d'Annie sont méga kitsch aussi. Des petits bérets, elle a tout le temps un petit sac à main, elle se travaille sur son vélo pour aller bosser à l'usine. Le film est méga coloré parce que le film ne se veut pas du tout être noir, au contraire. L'idée, c'est de raconter vraiment le MLAC, le mouvement de la libération pour l'avortement et la contraception, et de raconter vraiment la sororité entre Nana et le parcours d'Annie, en fait, qui est en colère, mais ensuite qui l'est plus trop. Et ce qui est vachement bien, c'est vraiment, elle, la découverte d'un féminisme, de son corps. Elle découvre aussi qu'en fait, elle n'a pas toujours envie de dire oui à son mec. Quand il décide de parler de syndicalisme à table, en fait, ça lui casse les couilles. Et à la fin, elle commence à dire, ben non, en fait, moi, j'ai des trucs à raconter aussi, donc tu vas la fermer, Henri. C'est pas du tout Henri, mais évidemment, petit trigger warning, parce qu'il y a des scènes d'avortement, et c'est un peu dur à voir, et on voit pas mal de nanas en détresse totale. Mais ils arrivent à rendre ça beau, en fait. Il y a une vraie vague de sororité tout le film, et en fait, ça donne un peu envie de te faire une méga soirée avec tes potes pour défoncer absolument tout le patriarcat et tous les hommes, tant qu'à faire, mais aussi de discuter un peu plus des corps, des femmes, de la sexualité, et j'avoue que ça donnait un peu envie de se bouger un peu le cul. Je vais donner 4 étoiles, parce que qui mérite 5 étoiles, je ne sais pas. Enfin, en fait, c'est super, faut que tout le monde aille le voir. Déjà, c'est important comme film, t'apprends plein de trucs et il faut aller le voir.
Je suis allé voir Armageddon Time de James Gray. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui s'appelle Paul, qui vit dans une famille aux États-Unis, à New York, dans les années 80, avec ses parents et ses grands-parents. Et qui rêve de devenir dessinateur de BD. Et sauf que sa famille est pas hyper chaude, mais du coup lui il s'accroche à son rêve, bien aidé par son grand-père qui est incarné par Anthony Hopkins. Et il va faire la connaissance à l'école publique de Johnny. C'est un jeune noir avec qui il va se lier d'amitié et avec qui il va faire quelques petites bêtises. Ils vont fumer des joints dans les toilettes et ils vont un peu faire les bolos quoi. Ils vont faire les marioles en cours, à faire des grimaces, et ils sont toujours repérés globalement par les profs. Et ils vont essayer d'évoluer ensemble, sauf que le rebondissement, c'est qu'il va, comme ça se passe mal et que son attitude va entraîner son exclusion de l'école publique, ses parents vont le recaser dans une école, mais privée cette fois, et elle est détenue par le père de Donald Trump. On l'aime pas du tout. Et on est dans les années 80, le pays est présidé par Ronald Reagan, il y a un racisme systémique. Du coup, il va perdre son pote parce qu'ils vont pas être dans la même école. Et comme lui, il est en uniforme, son pote est noir, il passe le voir, ça le fait pas. Et leur amitié se brise un peu. Et surtout que son pote est vraiment dans le besoin parce qu'il vit avec sa grand-mère qui est malade. Et il s'accrochait un peu à Paul pour continuer à vivre, à avoir le sourire. Et il perd un peu son pote. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a à la fois le truc avec la famille et d'un autre côté, quelque chose de plus global sur la société américaine. Sur des gamins qui vont dire à Paul dans l'école privée pourquoi tu lui parles, c'est qui ce mec, alors qu'en fait, c'est juste son pote Johnny qui est venu le voir pour prendre des nouvelles et il l'a rejeté parce qu'il pouvait pas, dans le contexte avec les gens avec qui il était et tout. C'est très dur, mais ça reste quand même très chaleureux et assez cool à voir quand ils partagent leurs rêves aussi, ce qu'ils veulent devenir plus tard, etc. C'est super beau. Ils élaborent un plan pour partir en Floride, quitter New York pour vivre la belle vie, être riche, lui qui va être un grand dessinateur de BD, l'autre qui va devenir astronaute. Il va intégrer la NASA et ils vont partir pour cette aventure, mais ça va quand même finir par échouer, malheureusement. Pour Armageddon Time, je mettrais 4,2, ce qui est assez haut, parce que je suis très exigeant. Après avoir bu quelques verres, j'ai dit que c'était un chef-d'œuvre, et bon, c'est un peu une erreur d'avoir dit ça. Et c'est moche de ressortir ce moment, mais c'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouvais que c'était un très bon film. Pour moi, c'est un des films de l'année. C'est bien filmé, la couleur, la lumière est belle, on est en automne. Forcément, parc, feuilles, automne, ça marche. c'est une recette qui marche. Après, moi, j'aime bien parce que ça remet aussi en cause, au niveau de la société, pas mal de choses sur la discrimination envers les Noirs, comment était cette Amérique-là dans les années 80, les privilèges des Blancs. Et même si on a cette amitié entre un Noir et un Blanc qui pourrait être cliché, en fait, je trouve que ça l'est pas parce que déjà, on n'est pas sur une success story à la fin. C'est pas une vision super manichéenne des choses en mode c'est l'histoire de deux Américains qui n'ont pas la même couleur de peau mais qui ont fini par s'aimer, qui ont été meilleurs potes jusqu'à la fin de leur vie, quoi. C'est nul ce que je dis. Allez, on y va.